Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Place au débat des grandes voix du lundi avec ce soir mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice.
Bonsoir Julien.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Zapalski, communicante politique. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir avec nous ce soir. C'est donc la polémique qui secoue la droite républicaine. Le parti LR a décidé de retirer l'investiture, on en parlait dans le rappel des titres, de Renaud Muselier, président sortant de la région PACA et candidat à sa succession, après son alliance donc avec LREM, annoncée par Jean Castex en personne. Réaction de Christian Jacob, le patron du parti LR, c'est une petite manœuvre électorale. Alors, Renaud Muselier lui assume, il s'est exprimé cet après-midi.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de liste. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. L'investiture, je l'ai jamais demandé. J'ai demandé le soutien de ma famille politique. Et donc, je redemanderai le soutien de ma famille politique conformément au statut que je connais parfaitement.
Bien, il y a plein de choses à dire parce qu'évidemment les implications sont multiples. Je tourne vers vous d'abord, Brice Teinturier. Est-ce que cette alliance, c'est l'assurance d'une victoire pour Renaud Muselier ?
Non, je ne crois pas. Ce n'est pas l'assurance d'une victoire. Le Rassemblement national, d'abord, en 2015, avait obtenu plus de 40% des suffrages. Finalement,
c'était Marion Maréchal Le Pen à l'époque qui était candidate.
Il a fallu que les listes de gauche se retirent pour que la droite puisse être élue. Donc c'est un combat maintenant avec Mariani. Et cette alliance, quoi qu'en dise là, Renaud Muselier, cette alliance peut perturber une partie des électeurs de droite qui refusent justement que la droite soit soluble dans le macronisme. Donc on ne sait pas très bien comment vont se reproduire les électorats. On va travailler dessus dans les jours à venir, mais ce n'est pas du tout une garantie en tous les cas pour Renaud Muselier de faire ce type d'opération dès avant le premier tour.
Alors Émilie Zapalski, je vous pose la question à l'envers. Est-ce que ça peut profiter à Thierry Mariani, qui est donc le candidat investi pour le Rassemblement National ?
Ce qu'on voit, c'est que oui, la position de Thierry Mariani, elle est assez avantageuse à l'heure actuelle. Hein, parce qu'il était déjà en position de force. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Marion Maréchal, hein, 40% quand même dans cette région. Et là, quelque part, on a Thierry Mariani, ex-LR, avec un possible électorat qui se tournerait vers lui, ras-le-bol de la tambouille politicarde. Oui. On l'a entendu, Renaud Muselier, il essaie de dénationaliser en fait cette campagne, mais il a beaucoup de mal. On a entendu que ça. À côté, on a Xavier Bertrand, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, qui parle des Hauts-de-France, qui parle de sa région, qui parle de l'économie, qui parle des jeunes, qui parle de l'industrie. Là, on a un Renaud Muselier qui essaie simplement de se défaire de cette vampirisation nationale. Mmh. C'est le Premier ministre qui a annoncé cette alliance.
Vous pensez que ça peut avoir un effet repoussoir sur les électeurs traditionnels LR ? Parce que Renaud Muselier, c'est un personnage qui est apprécié par un certain électorat en région PACA, presque comme un maire, j'allais dire. C'est quelqu'un qui fait partie de la vie locale.
Oui, mais là, c'est un pacte. Ce n'est pas un pacte avec le diable, mais c'est un pacte quand même. C'est une alliance. Et même s'il ne parle pas d'appareil politique, on voit bien ce qui se trame. Moi, j'ai l'impression que ça donne la faveur justement à des personnalités hors LR, comme Xavier Bertrand. On a entendu aussi Valérie Pécresse, qui n'a pas les mêmes problématiques. En Ile-de-France, le Rassemblement national est beaucoup moins élevé, mais qui dit pas d'alliance, moi pas d'alliance. Ça donne un petit peu la faveur à ces personnes-là qui pourraient être vues comme finalement les alternatives, les véritables alternatives pour lutter contre le RN.
Et son candidat à la présidentielle se connaît pas Renaud Muselier.
Et ça change quelque chose.
Jusqu'à preuve du contraire.
Je ne suis pas très convaincu que l'impact de Renaud Muselier dépasse les Bouches-du-Rhône, et notamment même Marseille. N'oubliez pas dans quelles conditions il est devenu président de PACA, de Provence-Côte d'Azur. Simplement, il a été mis en place par
Christian Estrosi,
président élu, qui avait battu donc au deuxième tour Madame Marion Maréchal, et qu'il a mis en place parce qu'il était menacé, enfin la mairie de Nice, menacé de tomber dans d'autres mains que celles évidemment de l'équipe d'Estrosi ou de ceux qui pouvaient éventuellement le remplacer. Et donc il est allé, il a gagné bien sûr, et là on reste toujours sur ce souvenir-là.
Oui.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelque chose qui pèse et qui peut peser en faveur de Thierry Mariani, non seulement parce que c'est un ancien républicain mais aussi ministre de Sarkozy. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte communauté pieds-noirs. Et vous savez, les enfants des pieds-noirs, parce que ceux qui sont venus en 62 ont beaucoup vieilli, beaucoup ont disparu, mais les enfants notamment qui peuplent les associations pieds-noirs sont encore plus pieds-noirs que leurs parents. Et la déclaration du président de la République sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie, considérant que c'était un crime contre l'humanité, a beaucoup pesé, justement,
aux dernières municipales. Et vous pensez que ça peut, au bout du bout, avoir un impact sur l'élection régionale ?
Oui, je pense que, de toute façon, cette alliance...
Sur une partie d'électorat, en tout cas.
Et notamment, la manière dont il veut s'en défaire, on l'a entendu, Renaud Muselier, montre bien que ça peut perturber complètement l'électorat
LR. Je vous pose l'histoire du rapport de force, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé ce matin à ce micro, à Europe 1, c'est Éric Ciotti, pour qui cette alliance va offrir d'une certaine manière la région à Thierry Mariani, justement, on l'écoute.
Vous dire ce matin ma tristesse et ma honte du spectacle qui est offert aux électeurs de la droite républicaine dans notre pays. Renaud Muselier a fait un choix, ce choix je le déplore, je le regrette, je le condamne fermement, parce que ce choix va conduire vraisemblablement à l'élection de Thierry Mariani.
Après, si on regarde les choses de façon très analytique, c'est pas complètement délirant. Quand on voit les membres du gouvernement aujourd'hui d'Emmanuel Macron, il y a la moitié des membres des ministres régaliens qui sont des hommes de droite. Donc une alliance régionale avec quelqu'un de droite, ça peut faire sens quand même.
Vous avez clairement, et c'est ce que révèle cette affaire, vous avez clairement deux droites aujourd'hui, régionalement et nationalement. Régionalement, Charles Villeneuve le rappelait, Renaud Muselier, Christian Estrosi, Hubert Falco sont plutôt pour un rapprochement avec la REM. Et une partie des électeurs peuvent suivre. Et puis vous avez une autre droite incarnée davantage par Éric Ciotti ou d'autres qui voit le danger pour la droite, on va dire, classique gouvernementale de ce type d'alliance. Comment être allié sur une régionale et combattre Emmanuel Macron le lendemain lors de la présidentielle. Donc celle-là est arc-boutée contre toute alliance avec La République En Marche, au risque de perdre des électeurs de centre-droit qui, eux, veulent entendre parler d'autre chose que d'immigration et terrorisme, et par exemple de questions économiques. Et c'est ça qui se joue à la fois régionalement et nationalement.
Le risque d'implosion de la droite, Émilie Zapalski, il est réel ?
Oui, il est réel. Puis là, on sent que c'est les prémices de la présidentielle 2022. On voit bien des républicains qui assistent comme ça, passivement, au désossement de leur parti. On a la même chose au présidentiel. Ils n'ont pas de candidat. Il est bien, Éric Ciotti, mais ils n'ont pas de candidat. Et ils sont en effet proche de la scission avec deux pôles complètement différents. Donc on voit bien qu'il y a peu de possibilités. Mais après, il y a l'autre face, c'est l'AREM. Si jamais cette fusion ou cette alliance, comme on dit, puisque ce n'est pas les appareils politiques, ne gagne pas, qu'est-ce que ça veut dire pour 2022? Ça veut dire que l'AREM et LR ne sont pas capables d'affronter le Rassemblement national. Ça aura des incidences très très fortes, à mon avis.
On verra ce que ça présage pour l'élection présidentielle, parce que c'est un peu le coup d'envoi d'une certaine manière aussi de la campagne présidentielle. On en parle après la pause. 18h39, restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat des grandes voix du lundi, toujours Charles Villeneuve, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et Émilie Zapalski, communicante politique, qui est avec moi dans le studio d'Europe Soir. Alors évidemment, on continue à parler de cette polémique qui secoue la droite républicaine, le parti LR qui a décidé de retirer l'investiture de Renaud Muselier, et tout à l'heure, eh bien, c'est Thierry Mariani, candidat RN aux élections régionales dans cette même région PACA, qui s'est exprimé, il disait ceci.
Moi, j'ai connu le parti de Pasqua et de Seguin. J'ai connu un parti qui avait des convictions. Aujourd'hui, je vois un mouvement qui ne sait plus où il est et qui en est à faire toute une série de compromissions. Et c'est pour ça que j'ai quitté les Républicains, parce que je pense que petit à petit, ce parti est en train de se fourvoyer. Vous en avez encore un exemple ce week-end.
Voilà. Les Républicains sont en train de se fourvoyer, nous dit Thierry Mariani. Et c'est vrai que les macronistes disent aujourd'hui il y a deux droites irréconciliables, pour reprendre une expression chère à Manuel Valls à propos de la gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Charles Villeneuve ?
Absolument. Je crois qu'elle est éclatante. De toute façon, dans cette opération, le président de la République, qui l'a préparé de longue main, depuis des semaines et des mois, à travers Christian Estrosi, à travers Hubert Falco et accessoirement à travers Muselier, parce que les leaders sont plutôt du côté du Var et des Alpes-Maritimes, il est bien évident qu'il a un double objectif. D'abord, créer un rideau de fumée pour masquer la quasi-nullité de La République En Marche en Provence-Côte d'Azur, et pas seulement d'ailleurs, et là, Brice Teinturier pourra le dire, dans d'autres régions, et de couper les jarrets aux Républicains. Et couper les jarrets, là, il est en passe d'y réussir, en tout cas d'une partie de cette droite des Républicains qui, depuis le départ, ne veulent pas de La République En Marche.
Mais ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'espace pour une entité indépendante de la droite républicaine, c'est-à-dire qu'à terme, une partie de la droite républicaine, ce qui est déjà le cas, je le disais tout à l'heure, avec des ministres régaliens qui ont rejoint Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Jean Castex, qui est le premier d'entre eux, et plein d'autres, ça veut dire qu'une partie d'entre eux va continuer à rejoindre La République En Marche et Emmanuel Macron pour une alliance en vue de 2022, et puis l'autre aura le choix aussi de rejoindre le Rassemblement National de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y aura un espace pour rester indépendant, Brice Teinturier ?
Il y a un espace, mais qui s'est considérablement réduit. C'est un peu comme pour le PS, qui est coincé entre l'offensive d'Emmanuel Macron d'un côté et puis une gauche beaucoup plus radicale de l'autre. Et bien là, les LR sont coincés entre le RN, qui en plus cherche à capter un électorat maintenant de droite plus traditionnelle, oui. plus âgé, à le rassurer sur les questions économiques, sur les questions de l'euro. Et puis d'un autre côté, un Emmanuel Macron qui, lui, la poutre travaille, hein, comme disait Édouard Philippe, cherche depuis le début de plus en plus à reprendre cette partie de la droite qui, elle, est sensible aux enjeux business, à la mondialisation et pas uniquement aux questions d'immigration. Donc, à l'intérieur de cette double pression, vous avez un espace qui existe toujours, mais on le voit bien dans les enquêtes aujourd'hui, telles qu'elles sont incarnées par Xavier Bertrand comme candidat. C'est un espace qui se joue à 14, 15, 16%. Et tout l'enjeu et toute la difficulté pour les LR, c'est d'élargir, a fortiori quand les deux pinces de la tenaille essayent de se renforcer, à la fois du côté de Macron et du côté de Marine Le Pen.
Ça peut créer... Charles Villeneuve.
Non, mais qu'est-ce qui se joue dans une partie de la tête, si vous voulez, des stratèges ou semi-stratèges de la droite qui éventuellement va radier le président de la République. Il se joue la deuxième partie, si vous voulez, le deuxième grand vote de la prochaine élection présidentielle, les législatives. Il est bien évident que si une grande partie de la droite rejoint le président de la République, le camp, non seulement, il l'a dit, le Premier ministre Castex en annonçant cette alliance, il l'a dit en disant que c'est une recomposition présidentielle. Cette recomposition présidentielle ou législative va faire que beaucoup de républicains vont avoir une bonne chance d'être élus députés. Ouais. Or, ils jouent déjà 2027.
Ouais. Il y a aussi un autre élément, Émilie Zapelski, c'est que ça peut, en cas de victoire hein, de Thierry Mariani, Rassemblement National, en région PACA, ça sera un nouvel élément de la normalisation et de la dynamique en faveur du Rassemblement National et de Marine Le Pen, dont on parle beaucoup quand même en ce moment.
Oui, puis une région Rassemblement National, ça serait un véritable échec ouais, hein, pour cette ouais. fusion, pour cette alliance. Hein, ça veut dire beaucoup, beaucoup, encore une fois, pour 2022. Ça présage rien de bon.
Donc on est à l'aune d'une recomposition politique encore plus majeure que ce qu'on avait connu là depuis l'élection
d'Emmanuel
Macron.
Je pense que là, les
2017.
Choses s'accélèrent et on voit bien, en effet, comme le disait Brice Teinturier, que le RN change de discours. On a entendu un plan jeune de la part de Marine Le Pen. On entend un volet social qui n'existait pas avant. Oui. On entend une position vis-à-vis de l'Europe qui est bien plus modérée. On sent bien qu'il y a cette installation. Il y a eu la tribune des généraux, hein, quand même. C'est pas rien, les Français qui soutiennent. Donc l'aspect sécurité, l'aspect social, on sent qu'il y a un vent comme ça favorable. De l'autre côté, moi j'ai l'impression qu'il y a cette place peut-être moins pour les LR. Encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est la droite républicaine qui s'exprimerait hors LR. En effet, avec des élus locaux, des gens pragmatiques qui font leurs preuves sur leur terrain, comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, qui sont plus dans le terrain, les mains dans le cambouis. Et ça peut éventuellement fonctionner comme personne alternative, comme troisième homme ou femme pour renouer avec un hors RN.
C'est justement ce que veut éviter le président de la République, il ne veut pas l'émergence d'un troisième candidat qui pourrait lui...
Sauf qu'il peut émerger hors LR.
Qui pourrait l'affaiblir sur le premier tour.
Peut-être un dernier mot, Brice Teinturier, pour en finir avec cette thématique, puis on marquera une nouvelle pause. La politique, c'est aussi, d'abord et surtout, j'ai envie de dire, le débat d'idées. Le débat. Non, mais parce que les gens qui nous écoutent se disent, on parle beaucoup de tambouille politique, de petites alliances, de petits mécanos politiques, mais il y a un débat d'idées derrière. Est-ce que ce débat d'idées aujourd'hui, il est perçu par les Français avec des clivages forts entre les partis?
Vous avez mille fois raison, parce que le drame de cette présidentielle, c'est qu'elle est en train de se construire uniquement autour de la question de Marine Le Pen. Et donc d'escamoter les sujets qui préoccupent les Français, les sujets économiques, les sujets sociaux, les sujets régaliens, dont on ne parle pas, puisque le seul enjeu devient qui est le plus capable de battre Marine Le Pen, est-ce que c'est telle ou telle combinaison. Donc l'effet premier, je pense, de ce type d'opération, ça va être de recréer de la distance, de l'envie de dégager en fait tous ces responsables politiques qui ne sont pas en phase avec les vrais sujets. Alors il y a des différences, pour répondre à votre question, bien sûr que quand on regarde quand même les propositions ou les orientations de ces différents candidats, j'ai envie de dire, jamais peut-être la France...
On les voit de moins en moins quand même. Hein.
On les voit de moins en moins, il faut aller les regarder. Si vous prenez quand même ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, ce que raconte le Parti Socialiste, les écologistes, Macron, les LR, le Rassemblement National, en réalité vous avez une fragmentation extrême, chacun est dans son corridor, mais ces corridors sont très différents, mettent en avant des préoccupations différentes.
Un mot, Charles Menard.
Simplement, Brice, est-ce qu'il faut exclure un troisième candidat qui émerge quand on sait que les Français ne veulent pas du duel Macron-Marine Le Pen?
Eh bien, tant que vous ne me donnerez pas un non potentiel, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que le candidat qui arrive à la dernière minute
en moins d'un an qui se fait connaître. Non, parce qu'on fait l'analogie avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était connu. Il était connu depuis 2015.
18h48, on marque une pause. On dira un mot du déconfinement, parce que c'est quand même la bonne nouvelle du jour, la première étape du déconfinement. Et ça peut aussi avoir des incidents sur la campagne électorale. À tout de suite.